Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission de la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de la composition du nouveau gouvernement. On parle aujourd'hui quels sont les rôles et les compétences des ministres, vice-ministres, ministres d'État, ministres délégués, etc. Nous allons en savoir plus avec notre invité, le professeur Sylvain Tchikoj. Bonjour, professeur.
Bonjour, monsieur.
Il est expert en décentralisation. Il est il est scientifique et il est également expert dans les domaines politiques. Il va nous en dire un peu plus dans cette émission de la vie au quotidien des questions et préoccupations. Eh bien, composez les 099-706-9941. Laissez un commentaire sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Tati Mapoukou assure la coordination. Feza Bongonda réalise cette émission. Pierre Diassino à la mise en onde au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Le gouvernement de Jeudi Soumino a été déjà investi le mardi dernier à l'Assemblée nationale. Alors, ce gouvernement est composé des vice-ministres, ministres d'État, des ministres délégués, etc., des vice-premiers ministres. Alors, quels sont les rôles et les compétences des uns et des autres? Parce que parfois, ça pose problème. Beaucoup n'arrivent pas bien à comprendre quels sont les rôles des uns et des autres, etc. Eh bien, avec notre invité, qui est analyste politique, expert en décentralisation, le professeur Sylvain Tchikoj, nous allons en savoir un peu plus. Professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue dans cette émission.
Merci.
Alors, déjà un commentaire par rapport à la composition du nouveau gouvernement. On parle des ministres, vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres délégués. Qu'est-ce que tout cela vous inspire?
Du superflu. En fait, on gonfle les effectifs justement pour satisfaire des caprices politiques. Alors qu'il y a moyen de combiner certains ministères pour en faire quand même une structure beaucoup plus réduite et qui ne peut pas être médiativore. Mais curieusement, on voit que le chef de l'État qui avait promis qu'il allait changer les choses, que les erreurs du passé ne pouvaient pas revenir, mais curieusement, les erreurs du passé commencent à revenir. Surtout en ce qui concerne ce gouvernement, vous avez vu que ça a pris au moins 6 mois pour que on puisse mettre au point ce gouvernement gigantesque qui pose problème dans la population, qui se dit mais pourquoi tout l'argent du pays, du contribuable, doit toujours aller vers ces gens qui peut-être seront des meilleurs comme ceux qui sont sortis du gouvernement.
Alors dites-nous, quels peuvent être les rôles des uns des autres? C'est quoi les rôles d'un premier vice-ministre? Quel est le rôle d'un ministre d'État, d'un ministre délégué, tout ça? Aidez-nous à comprendre les rôles des uns et des autres.
Bon, il faut d'abord dire que je ne vois pas un gouvernement qui se prend au sérieux devrait déjà faire une description de tous ces jobs, des attributions de chacun de ces ministres. Lorsque vous dites un vice-premier ministre, c'est celui-là qui, par exemple, à la charge de seconder le Premier ministre ou la Première ministre actuelle, Madame Judith. Mais il faut maintenant dire, il est Premier ministre, vice-premier ministre dans quel domaine? Vice-premier ministre dans le domaine de l'agriculture, par exemple, ou dans le domaine de la défense, ou encore dans la justice. Donc c'est vraiment différencié. Mais je me dis que est-ce qu'ils connaissent ce qu'ils doivent faire? Lorsque vous prenez quelqu'un qui était ministre de la Défense, vous le projetez déjà comme ministre de transport. Vous pensez que ce ministre a une vision du transport. Il va tout simplement se balader dans ce ministère pour ne rien apporter. Et je pense qu'il avait fallu peut-être chercher des experts des gens qui connaissent les problématiques du transport dans notre pays. Il était dans la défense, tout de suite il est de l'autre côté. Alors le problème qui est là, c'est que on cherche justement à satisfaire le besoin politique de l'un ou de l'autre. Donc j'ai l'impression que beaucoup de ministres, peut-être je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire dans leur ministère. Ils vont se débrouiller. Comme par exemple, il y a de cela le gouvernement passé où on nomme un ministre, par exemple, à l'hydrocarbure, qui n'en savait rien du tout et devait se référer à un directeur qui lui explique dans deux semaines qu'il lui donne un séminaire de deux semaines et il ne savait pas comment s'y prendre. Donc c'est une difficulté réelle dans notre pays.
Par exemple, aujourd'hui, on parle des ministres délégués. Quel est le rôle d'un ministre délégué?
C'est quoi un ministre délégué? C'est-à-dire un ministre qui est là justement pour accompagner peut-être le président, donner des points de vue du président, tout ça. Mais tout ça, c'est du superflu. Il est délégué pour faire quoi? Et dans quel ministère? Et même dans l'un ou l'autre ministère, on a l'impression qu'ils ne font rien. J'ai vu autrefois la législation passée où on avait nommé un ministre ou une ministre délégué au ministère des Affaires sociales, mais qui s'occupait des handicaps. Donc des personnes vivantes avec handicap. Mais on a vu qu'elle n'en s'en sortait pas, puisqu'elle n'en connaissait pas grand-chose. Et les juristes, c'est vrai, mais ici, il faut des experts, des gens qui sont capables d'apporter quelque chose. Donc il y a toujours...
Oui, mais on peut toujours s'entourer des experts aussi.
Oui, mais écoutez, il faut d'abord au départ avoir une certaine vision, une certaine conviction de ce qu'on doit faire. Quand vous prenez n'importe qui, vous le mettez dedans, vous dites que non, il va s'entourer d'experts et finalement, quel est le résultat? C'est zéro.
Alors nous, on veut plus connaître les rôles des uns et des autres. Où est-ce que les responsabilités de tels commencent et où est-ce que ça se limite pour éviter qu'il y ait un télescopage?
Mais c'est très difficile, c'est ce que je vous dis. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas une description claire et nette des attributions de l'un ou de l'autre. C'est souvent une réponse qu'on donne au cartel politique pour dire, voilà, j'ai quelqu'un qui doit aller là. Parfois, d'autres sont recommandés par des pasteurs, de ceci, de cela. Et alors, vous allez dire quoi? Moi, je ne sais pas comment je peux décrire pour l'un ou l'autre. Et c'est une difficulté réelle, puisque tout ça en avance...
Mais en sciences politiques, est-ce que cela n'est pas prévu qu'il y ait des... On peut avoir des vice-premiers ministres, des ministres, ministres d'État, ministres délégués, tout ça?
Oui, on peut avoir ça dans le contexte politique congolais. Mais ailleurs, si on a un secrétaire comme un ministre, par exemple, de la culture, mais ça suffit. Il peut s'occuper de la culture, il peut s'occuper du sport et autre chose. Mais ici, chez nous, qu'est-ce qu'on dit? Prenons, par exemple, le ministère de l'Environnement. Et à la fin, on dit qu'il y a un autre ministère, le ministère du Développement Rural. Pourquoi ne pas dire ministère de l'Environnement
et développement rural?
Ça suffirait complètement. Et là, il y a moyen de décrire et de comprendre, puisque quand on doit protéger l'environnement, il y a aussi moyen de protéger les acquis, par exemple, du développement dans le milieu rural. Alors, mais ici, on doit séparer. Justement, la difficulté, c'est que on est tenté de servir les intentions ou bien les besoins politiques de l'un ou de l'autre, de cartels politiques. Donc, il est difficile de dire ça. C'est pourquoi il y a toujours un combat parmi eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pas de limite pour l'un ou pour l'autre. Donc, c'est une difficulté réelle. Encore faut-il demander peut-être à Madame la Première Ministre de définir réellement et de mettre ça sur la place publique pour que nous puissions en savoir quelque chose. Puisque je ne sais pas le contenu, on n'a pas publié ça, je ne peux pas inventer. Je ne peux pas inventer ça, il faut qu'on soit honnête sur ce point-là. Mais je sais au moins que les ministres, par exemple, vice-premier ministre, ministre des affaires sociales ou des affaires ceci, cela, tout ça, c'est de l'amalgame, c'est vraiment du superflu. Il faut que
professeur, nous sommes en train de... C'est une émission pédagogique, on voudrait que la population comprenne les rôles des uns et des autres. Je reviens à vous tout à l'heure. Ouais. Le temps d'accueillir Roger Marcel de Kinshasa et ensuite Omar Kigalo. Roger Marcel, bonjour. Omar Kigalo, vous êtes là, bonjour. Omar Kigalo, bonjour.
Bonjour, monsieur Jodier, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Bonjour.
Merci beaucoup du verbe que vous m'accueillez pour cette belle thématique. Avant tout, il faut citoyenneté oblige de s'allier la publication du gouvernement et son investiture, même si les modalités de sa mise en œuvre posent problème. Nous savons dans quelles conditions ils ont été nommés et comment ils ont été investis. Mais qu'à cela ne tienne, en tout républicain, nous saluons. Par rapport à votre noble question sur le rôle de chacun, il faut d'abord préciser que la Constitution congolaise, à son article 91, précise que le gouvernement est l'appareil de gestion de l'État. Il a pour mission d'exécuter les lois qui sont votées au Parlement et de mettre en œuvre la politique générale et la conduite de l'État. C'est ça le rôle du gouvernement dans son ensemble. Le Premier ministre est comme le coach, c'est lui qui pilote ses gouvernements et qui définit en concertation avec les autres ministres. Il y a aussi une ordonnance prise par le président de la République qui fixe les attributions de chacun. Les titres vice-premier ministre, ministre d'État, ministre délégué ne sont que des titres protocolaires qui sont mis en place pour deux raisons. Premièrement, pour des raisons de préséance, c'est-à-dire lorsque tel n'est pas là, qui peut remplacer. Mais en aucun cas, un vice-premier ministre peut donner des ordres à un ministre d'État. Ils sont avant tout collègues, mais c'est pour des raisons de préséance et des protocoles qu'on a institué ces différents titres. Deuxièmement, il y a des nécessités qui exigent qu'il y ait des particularités. Je donne un cas. On crée un ministère des Affaires sociales. On se rend compte que c'est vrai, ça règle les problèmes globaux, mais il y a une spécificité qui mérite d'être suivie. On peut créer un ministère délégué chargé peut-être des handicapés. Donc, en politique, ça se justifie. C'est pour deux raisons. Pour des raisons protocolaires de préséance, mais aussi pour des raisons de spécificité par rapport à la mission. Mais ce que nous déplorons, comme le professeur l'a dit, la manière dont on fait les choses. Premièrement, observez seulement le temps que cela a pris pour qu'on mette en place les gouvernements. Le pays a été pris en otage par quelques personnes qui désirent qui doit être là, qui ne doit pas être là. Deuxième chose, on parle du nombre élevé des ministres. Le prof l'a dit, on a aujourd'hui un ministre délégué à l'urbanisme chargé de la ville. Ça signifie quoi, je dis? Un ministre délégué à l'urbanisme chargé de la ville. Donc, au-delà du fait que nous encourageons les gouvernements à bien travailler, au-delà du fait que les attributions de chacun sont déjà déterminées dans une ordonnance et dans la Constitution, mais nous déplorons le fait qu'on a mis en place d'autres ministères inutiles pour satisfaire les appétits politiques des ménopausés politiques qui ont été là depuis très longtemps, qui ne veulent pas partir. S'ils ne sont pas là, c'est leurs enfants qui remplacent. Donc, par exemple, ce ministère délégué-là, on ne sait pas quelle est son importance. Mais pour chuter, moi je pense, la loi a déjà tout prévu. Les attributions de chacun sont connues. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est d'abord respecter ce qui est prévu. Chacun doit garder sa bande parce que chaque ministère a un champ d'action limité, mais les parlements doivent aussi contrôler l'action du gouvernement pour que nous puissions avoir des résultats escomptés. Voilà, mon ami, la raison d'être de ce titre vice-premier ministre, ministre délégué, ministre d'État, qui n'a rien à voir avec l'autorité, mais seulement pour des raisons protocolaires et pour des raisons de répartition d'État spécifiques. Mais des deux, nous déplorons et nous dénonçons la tardivité d'abord qui a été causée, pas pour l'intérêt général, mais pour satisfaire les gens, mais aussi les ministères qui ont été créés de manière inutile, comme l'a dit l'invité, au lieu de les mettre ensemble, on a séparé. Voilà ma petite contribution, très cher Jody. J'ai dit, je vous remercie.
Bien, merci, Maître Omar Kigalo. Professeur, votre réaction?
Oui, tout à fait. Il a très bien dit les choses. Et je pense que...
C'est pour des raisons de préséance et raisons protocolaires, d'après lui.
Oui, mais ça vaut quoi, tout cela? Des raisons protocolaires, préséance, tout ça. Pourquoi ne pas vraiment mettre au point une structure beaucoup plus simple, plus compréhensible, intelligible et intelligée? Par exemple, ministre de l'Environnement et Développement Rural. Donc, on se limite à ça. Et quand on dit, oh, vice-premier ministre chargé de ceci, justement pour répondre aux appétits politiques, comme notre cher ami venait de le dire, maître venait de le dire. Donc, tout cela, c'est un superflu, comme je vous l'ai dit. Donc, il y a moyen de restructurer les choses, même si la Constitution, c'est la question de la révision de la Constitution se pose ici. Mmh. Il faudra qu'on arrive, justement, à clarifier les choses au niveau, en faisant une nouvelle écriture de la Constitution.
Parce alors, que tout professeur, ça nous bloque. Tout professeur, ça nous bloque. Quand on dit ministre d'État, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est qui un ministre d'État et quel est son rôle?
Mais un ministre d'État, c'est... En général, moi, personnellement, je ne vois pas le rôle important qu'un ministre d'État peut jouer. Quelle est la différence d'un ministre d'État avec un ministre qui joue? On va dire, c'est un problème de préséance, comme notre maître venait de le dire. Mais en réalité, il n'y a rien de spécial puisqu'il n'y a personne qui donne des ordres à l'autre. Donc,
peut-être qu'il a des attributions spécifiques que les autres n'ont pas.
Peut-être les délégués, dont, comme maître l'a dit, il est délégué à ceci, une spécificité. Mais il y a l'administration publique qui est là. Dans un ministère, il y a des experts qui peuvent jouer ce rôle-là. C'est pourquoi j'ai dit que tout ça, c'est du superflu. Nos experts sont au niveau de l'administration. Le ministre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On privilégie plus le ministre et son cabinet, mais on abandonne ou bien on néglige les experts qui sont dans les ministères, qui gèrent l'administration de tout un ministère. Et donc, c'est eux qui sont des experts. Quand vous dites un ministre délégué parce que c'est une spécificité, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas des directions au sein du ministère qui traitent de ces questions? Prenons le cas du ministère des Affaires sociales. Mais il y a toute une direction qui s'occupe des personnes vivant avec handicap. Il y a une direction qui s'occupe, par exemple, des minorités. Tout cela, c'est important. Donc, on pouvait mettre un seul ministre et privilégier plus les experts qui sont dans les administrations. Pour moi, c'est ce qui compte à mes yeux.
Bien, on va accueillir Nassir Ouambara de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Merci de diminuer le volume de votre radio. Vous allez suivre à partir du téléphone. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au rôle et compétences des membres du gouvernement?
Oui, j'ai juste une question à adresser à l'invité.
Oui.
Je voudrais un peu savoir, est-ce que les problèmes de la conjoncture qu'a notre pays aujourd'hui nécessitent réellement 54 ministères pour faire face? Merci.
Bien, est-ce que le problème... du pays nécessite d'avoir 54 ministères. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Absolument pas. C'est ce que nous déplorons. Maître venait de le dire, moi je le dis déjà au départ, que ce nombre important de ministres, ça détruit, puisque le budget, moi je dis que c'est un gouvernement budgétivore. Quand on a 54 ministres, pour faire quoi avec tout ça? Le pays est en difficulté, le pays est en guerre, la population souffre, le pouvoir d'achat de la population...
Bah, vous l'avez dit au début qu'il y a des appétits, il faut
des satisfaire... Des appétits, on satisfait tout ça, et c'est le peuple qui en pâtit, qui en souffre, en réalité. Pourquoi ne pas investir? Donc, eux, ils vont rouler des carrosses, ils vont avoir de vacances, ils vont avoir de l'argent, et la population, les contribuables qui donnent cet argent-là, souffre énormément.
Professeur, d'après vous, un gouvernement peut fonctionner avec combien de ministères?
35, ça va. Ça peut aller. Il faut combiner ces ministères, puisqu'il y a des ministères inutiles qu'on a créés. Inutiles. Le maître venait de le dire, et je le dis au départ, qu'il y a des ministères qui ne valent pas la peine. Donc, on peut combiner ces ministères, diminuer le nombre de ministres, et puis donner quand même des fonds pour certains services de base qui manquent dans la population. C'est ce qui est très important. Je pense que notre auditeur qui nous a posé la question a cette réponse, que c'est budgétivore, c'est pas intéressant pour que le pays fonctionne. Il ne faut pas nécessairement avoir 54 ministres.
D'après vous, avec 35 ministères...
Oui, ça peut aller. Les choses peuvent aller. C'est question d'avoir de la volonté politique. Tant que la volonté politique manque, deuxièmement, quand il n'y a pas la possibilité d'intégrer dans le mode de fonctionnement les valeurs éthiques, à ce moment-là, il y a problème. Même si on en a 50, on en a 1000, ça ne va pas servir quelque chose du moment qu'il n'y a pas cette volonté politique, du moment qu'il n'y a pas des valeurs éthiques qui doivent être mises en place pour pouvoir avancer dans la gestion de la chose publique.
Professeur Sylvain Tchikoj, quel est le rôle d'un ministre?
Le ministre est là pour exécuter une politique, et la politique générale, mais dans un secteur précis. Par exemple, le secteur de l'éducation. Et ce ministre, il doit suivre la politique publique qui a été mise en place par le chef du gouvernement. Et il va défendre cette politique publique dans un secteur précis qui est l'éducation devant la population et devant les représentants de la population.
Bien, on va accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Julien. Bonjour à l'invité du show.
Quelle est votre question, Roger?
Bon, merci beaucoup pour la question.
Ben, désolé, là, on vous entend pas très bien, Roger.
Non, je suis là, monsieur Julien. Ça va?
Allez-y.
Allô?
Oui, allez-y, ça va mieux.
Ouais. Ouais, je disais, le chef de l'État avait des autres tableaux pour préserver les villes de la population, même madame la
première. Désolé, là. Désolé, là, on vous écoute pas très bien. On va peut-être revenir à vous tout à l'heure. Alors, professeur Sylvain, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bon, vous avez dit, le gouvernement a la taille qu'il a aujourd'hui parce qu'il fallait satisfaire les uns les autres. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les conflits de compétences, les télescopages, etc., dans les attributions?
D'une part, il faut la rigueur du chef, de la chef du gouvernement, qui doit préciser les choses, qui doit tracer des lignes de démarcation entre l'un ou l'autre ministre. Donc, on ne doit pas empiéter sur les compétences des uns ou des autres. Donc, il doit le faire à ce sens.
Il faut avoir un job description, bien donc, clair et précis.
Bien clair et précis, parce qu'il y a toujours ces conflits d'intérêts qui est là. Nous avons vu la dernière composition du gouvernement qui vient de sortir, où il y avait beaucoup d'intercations entre l'un ou l'autre ministre. Vous voyez, il n'y avait pas une solidarité gouvernementale ou peut-être cette connaturalité entre les ministres qui doivent travailler ensemble. Il y avait beaucoup
d'empiètement.
Beaucoup d'empiètement. Vous voyez qu'on doit donner un ministre présente son projet, il est bloqué en faveur d'un autre qui est peut-être avec de bonnes relations et avec le ministre de Finances, par exemple. Donc ça, c'est un problème réel. Donc il faut que la Première ministre prenne ses responsabilités et puisse vraiment décrire des choses de façon claire et nette.
Bien, on va accueillir Kabuya de Kananga Malanjuanshinga. Kabuya, bonjour.
Bonjour Adio Kapi, bonjour à l'invité.
Bonjour Kabuya, qu'est-ce que vous avez à nous dire depuis Kananga?
Oui, je parle de ceci, mais pourquoi? Par rapport à ce que dit l'invité, on nous propose 54 députés aussi
ministre,
longtemps que on n'a pas
ministre.
La bonne vie.
54
et
ministre.
Par rapport au discours du chef de l'État, ce qu'il disait par rapport à ce qu'il a fait avec le ministère, ça ne va pas. Est-ce que je pose la question au maître, est-ce qu'on ne peut pas réduire du 54 ministères vers même 24? Ça suffit pour moi.
Merci d'avoir appelé professeur Sylvain.
Bon, cher ami Kabuya, moi je pense que vous avez raison, pleinement raison, et nous soutenons cela. Et même toute la population du pays, dans sa diversité, exige qu'il y ait toujours une réduction de ce gouvernement. Le problème, c'est que...
Mais à ce stade, c'est plus possible, parce que le gouvernement
est déjà
investi.
C'est plus possible. Il faut peut-être que la population prenne ses responsabilités, interpelle le chef de l'État. Parce que ça n'est trop. Où le train de vie de la population est vraiment misérable, alors que les ministres, eux, qui ils ont tous les moyens, tout ça, et c'est beaucoup d'argent, va chez eux. Donc, il faut vraiment qu'on tienne compte de ça. Mais pour le moment, c'est un peu difficile que le gouvernement soit regardé avec beaucoup de critiques. Mais je pense que c'est dans la deuxième, peut-être la deuxième partie de la gestion de ce gouvernement qu'on peut peut-être prendre en compte toutes les réclamations de la population.
Bien, nous parlons de la composition du gouvernement. Quels sont les rôles et compétences des uns et des autres vice-primature, ministre d'État, ministre délégué, ministre, vice-ministre. Alors, entre ministres, ils sont vice-ministres. Professeur, comment doit se faire le fonctionnement?
Ils doivent se partager, c'est-à-dire que le ministre...
Les attributions.
C'est-à-dire que le ministre peut gérer la politique générale de son secteur. Mais il faudra qu'il donne peut-être un secteur précis, par exemple l'administration. Peut donner l'administration
au vice-ministre.
Au vice-ministre. où il peut dire, bon, le vice-ministre va gérer les finances, par exemple, du ministère. Donc, c'est un problème d'entente et puis d'organisation au sein du ministère. Tant qu'il n'arrive pas à le faire, c'est très difficile.
Parce que souvent, on a l'impression que les vice-ministres sont écrasés par les ministres.
Oui, dans beaucoup de cas. Et c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté parce que si le vice-ministre qui est payé par l'État et n'a rien à faire, il passe tout son temps à se promener alors qu'il est, même absent plusieurs, pendant la semaine, il peut venir deux fois. Donc, c'est un manque à gagner pour la population et pour l'État.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une bonne collaboration, entente entre les ministres et les vice-ministres?
Ben, je pense que c'est la première ministre qui doit décider, qui doit préparer les choses et organiser les choses à ce niveau-là. Que chacun puisse vraiment avoir du travail à faire. Et là, je parlais souvent de la charte éthique qui doit être mise sur la table, que chaque ministère puisse s'y conformer. Et à ce moment-là, il y a moyen de partager des attributions, partager des responsabilités au sein des ministères. Et ça, c'est nous remettons la question à la Première ministre.
Bien. Et maintenant, entre le ministre et le ministre délégué, il faudrait aussi que les choses soient bien clarifiées.
Et là aussi, c'est un problème. Moi, j'ai vu en 2022, où il y avait au ministère des Affaires sociales, parce que j'étais un conseiller, j'étais pas conseiller, mais j'étais quand même un consultant de ce ministère-là. J'ai vu qu'il y avait un problème entre la ministre qui était là, ministre des Affaires sociales, et la ministre déléguée. Et nous avons remarqué à un certain moment que la ministre déléguée s'en passait ou ne voulait pas écouter la ministre. Au point que sur certaines de ses cartes de visite, elle mettait qu'elle était ministre des Affaires sociales. Vous voyez? Et dire ministre délégué, c'était en petit caractère, à peine on pouvait lire ça. Donc vous voyez ces conflits-là. Au point même que cette ministre déléguée a dû réclamer toute une administration aujourd'hui, elle l'a obtenue. Elle a réclamé une administration, c'est un superflu, puisque je me dis, il y a le ministère des Affaires sociales, Affaires humanitaires et tout ça. Mais ce ministère a des experts au niveau de l'administration. Pourquoi créer un ministre délégué et lui donner, par exemple, toute une administration?
Une administration parallèle.
Parallèle. Donc, il y avait un conflit réel entre les deux dames et nous étions là juste pour aplanir les angles et puis les aider à avancer. Nous avons fait ça, ce travail-là, mais c'était ardu à le faire.
Bien, on va accueillir Mave Chisambika de Lubumbashi. Bonjour. Oui, parlez un peu plus fort, Mave, on vous écoute presque pas.
Oui, bonjour Dodi, c'est M. Mox, je vous appelle à votre de la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga.
Vous entendez maintenant? D'accord, quelle est votre question? On vous entend maintenant.
Merci beaucoup Dodi. Je pense, merci beaucoup pour cette thématique qui semble être importante. Pour nous Congolais qui ont souci du changement de ce pays, j'interviens justement pour déchiffrer, donc de montrer les comportements de nos politiciens partant d'abord de l'Assemblée provinciale nationale. Vous-même, nous avons assisté à cette ambiance qui caractérisait l'enthousiasme au sein de l'Assemblée à partir de députés qui, lors de l'investiture, aucun député n'a soulevé les cas de réduction de leur émolument et partant de la composition gigantesque de ce gouvernement qui semble être budgétivore, qui n'a rien à foutre pour les conditions sociales de la population congolaise. Je prends l'exemple, par exemple, pour vous montrer que cette composition du gouvernement ne table pas pour les soucis, donc soucis sociaux de la population. Quand on prend par exemple dans un problème de finalement les cas d'un ministre comme Jean-Pierre Bemba de la CAN, qui était dans ce pays un président, un vice-gouvernement, un vice-président du pays, qui quitte de la défense pour être un ministre des transports. Vous vous imaginez que ce ministre-là a été mis dans ce poste pour servir le peuple? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont lié dans ce gouvernement.
D'accord. Merci, Mavé Tshisambika. Professeur, est-ce que c'est mauvais d'opérer des permutations au sein d'un gouvernement?
Mais pourquoi il n'y a que les mêmes personnes? D'abord, ça. Une personne qui a été à la défense, elle est supposée avoir des compétences pour ce ministère. Nous avons tous cru, pour avoir été rebelle, pour avoir été président de la République. Donc, cette expertise-là, en lui donnant le ministère de la Défense, hein, il y avait...
Mais il a aussi de l'expertise dans les secteurs du transport pour avoir géré une compagnie d'aviation.
Ne dites pas que dans ce pays, il n'y a pas de personnes qui peuvent être intelligentes et avoir des instruments intellectuels pour pouvoir gérer ce ministère.
Il y a par exemple Julien Paluku qui était au ministère de l'Industrie aujourd'hui, qui se retrouve au commerce extérieur. Les permutations sont possibles au sein du gouvernement.
Il y a peut-être là, vous voyez, l'industrie, ministère du commerce, il y a peut-être, on peut imaginer qu'il peut y avoir quelque chose. Mais vous prenez un soldat, vous le mettez, il devient enseignant.
Mais est-ce que la permutation est mauvaise ou pas?
La permutation...
Est-elle possible ou pas?
Bon, elle est possible, puisqu'elle est humaine. Mais en réalité, c'est pour quelle fin? Puisqu'il faut faire ces permutations en sachant qu'il va apporter quelque chose. Mais il y a quelqu'un, maître, je pense qu'il a dit, ce sont des ménopausés, qu'ils ne peuvent rien apporter. Ils ne peuvent rien apporter aujourd'hui dans la vie sociale des populations. Ce sont des ministères qui sont inutiles, qui pouvaient être gérés par des experts. Pourquoi n'est pas vraiment...
Mais ils s'entourent toujours, les politiques s'entourent toujours des experts.
Non, ils s'entourent des membres de leur parti. Regardez dans les partis politiques. Il y a combien d'experts? Et ceux qui sont experts ne sont pas présentés pour devenir des ministres. Vous voyez? Donc, nous savons ça. Nous savons ce que c'est dans les girons politiques, ce qui se passe. Vous voyez, il y a
des... À un moment, on parlait des technocrates.
Oui, des technocrates. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout le monde...
Mais beaucoup soutiennent qu'il y a aussi beaucoup de technocrates.
Qui ne sont pas ministres. Les partis politiques sont des boîtes qui appartiennent à ceux qui l'ont créé. Vous voyez ça? Ils disent, moi je connais une dame qui a un parti politique qui disait, c'est mon parti, c'est moi qui ai créé ça. Alors que la personne est devenue, par exemple, elle occupe certaines responsabilités. Mais du moment qu'on dit, non, c'est mon affaire à moi, c'est pour moi, donc il peut mettre soit lui-même, soit sa femme, soit son enfant, et les experts qui ont travaillé dans ce parti sont écartés, marginalisés. Et c'est ce qui arrive, les conséquences sont là. Puisque quelqu'un qui vient là pour avoir de l'argent, il met sa femme, il met ses enfants, ben vous croyez qu'il peut faire quelque chose pour la population? Je pense que monsieur a raison et nous devons demander à la population de se mobiliser justement pour interpeller le chef de l'État sur cette question.
Donc vous dites qu'il revient au premier ministre, à la première ministre d'établir, de bien fixer les rôles des uns des autres pour éviter les empiétements.
Absolument, c'est cela que nous proposons à la première ministre, qu'elle puisse fixer, qu'elle ait une bonne description des jobs. Donc, que chacun puisse savoir ce qu'il doit faire. Et il faut là avoir un bâton et suivre ça. Et c'est que j'appelle ça une répression chirurgicale. Quand un ministre n'est pas à la hauteur de ce qu'il lui a été demandé de faire, il faut le mettre hors d'état de nuire, puisque ce ministre ne vaut absolument rien. Donc, il faut qu'il y ait une surveillance, une brigade de surveillance. Et, comme je disais hier dans une émission, que... La première ministre doit prendre ses responsabilités. Si elle ne prend pas ses responsabilités, il faut que la population récupère cette responsabilité et propose au chef de l'État d'échanger la première ministre, d'échanger tel autre ministre. Je pense que nous devons arriver à cette maturité politique, surtout dans la population.
D'accord. On va accueillir également d'autres auditeurs. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à cette thématique. Appelez-nous au 099-706-99-41. Nous parlons de la composition du gouvernement, quels sont les rôles des uns et des autres, etc. Et comment bien travailler, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, qui est la solidarité gouvernementale, tout ça. Professeur, cette solidarité, comment on peut arriver à la mettre en place? Pour bien travailler d'une manière harmonieuse au sein du gouvernement.
Oui, la solidarité est un facteur éthique. Il faudra que la chef du gouvernement puisse préparer un cadavre sur la gestion de l'éthique au sein de son équipe. Et là, il faut qu'elle puisse recourir aux experts que nous sommes pour que nous puissions lui proposer certaines ouvertures de la manière la plus simple possible pour qu'elle puisse gérer vraiment son équipe. Puisque s'il n'y a pas cette solidarité gouvernementale, s'il n'y a pas cette connaturalité, cette temporalité ou contemporalité où les uns et les autres se communiquent, vous avez un projet et vous le mettez au service de la population, mais le ministre des Finances refuse de vous financer ça. Il va financer un projet qui n'a pas de sens. Il va vous proposer les gens, vous proposer les ouvertures pour les entreprises qui peuvent gérer un tel projet. Mmh. Lui, il va prendre son frère, il va prendre sa femme, il va prendre son cousin et ses amis.
Et du coup, voilà. Vous êtes bloqué.
Vous êtes bloqué. Donc, tout cela, il faut que la Première ministre ne puisse pas tomber dans le piège de la fois passée où les ministres faisaient ce qu'ils voulaient. Et il faudra aussi interpeller le chef de l'État qui a eu 73% des suffrages universels exprimés par la population. Il faudra qu'il écoute ce que nous disons. Il faudra qu'il puisse comprendre. Nous ne le disons pas. Nous sommes près de la population. Je suis un simple enseignant et je suis près de la population, des parents des enfants qui sont là. Donc, nous devons lui dire des choses. Comme Monsieur le Président, ne tombez pas, vous l'avez dit vous-même, dans les mêmes erreurs. Il faut surveiller ces gens. C'est pour cela.
Est-ce qu'il faudrait-il mettre en place un système d'évaluation?
Oui, mais écoutez,
vous fixe des objectifs à atteindre et après on fait une évaluation.
Tout à fait, monsieur. Je disais que là, en 2019, j'avais emmené un projet ici que j'avais intitulé le Conseil national d'éthique. Ce Conseil national d'éthique avait trois dimensions. La dimension des luttes contre la corruption, la dimension des changements de mentalité et la dimension de brigade de surveillance. Et cette brigade, je prends la dernière dimension, la brigade de surveillance, qui consistait justement à contrôler, à évaluer tout ce que les ministres font, tout ce que les députés font, même au niveau éthique. Et le principe fondamental de ce Conseil national d'éthique était le soupçon ou la rumeur. On entend que vous avez détourné. Immédiatement, ce conseil vous interpelle et prend la place du ministère public pour vous traduire en justice. Voilà ce que la chef du gouvernement devra faire, organiser ce réseau de brigades de surveillance pour tous les ministères. Ceux qui ne sont pas capables, il faut les mettre hors d'état de nuire.
Alors, quand vous parlez de l'éthique, il s'agit quoi, des valeurs ou que doit incarner ou prôner un ministre?
Oui, mais justement, il faut qu'il y ait quand même ce mariage parfois incongru entre la politique et les valeurs éthiques. Puisque si les responsables politiques ne savent pas célébrer, comme le disait Emmanuel Kant, qu'il faut arriver à célébrer le mariage entre l'éthique et les responsabilités et la politique. Si les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ne savent pas combiner les deux, donc il y a une catastrophe. C'est pourquoi le peuple souffre. C'est pourquoi ils détournent comme ils veulent. Il n'y a pas de valeurs éthiques. Personne ne peut surveiller ça. Donc, c'est pourquoi je propose encore aujourd'hui qu'il y ait un conseil national d'éthique où nous devons contrôler ces gens et les mettre dans une situation de contrainte pour qu'ils ne puissent pas continuer à détourner des millions. Et je disais que, vous voyez, par exemple, un ministre qui détourne des millions et il circule tranquillement, il prend de la du champagne et il est à l'aise, mais aucune interpellation. Même
alors,
pas
pouvez-vous citer quelques valeurs éthiques?
Non, par exemple, la bonne gouvernance, c'est une valeur éthique. Mmh. Le sens de la responsabilité est une valeur éthique. Vous voyez ça? La solidarité, nous venons d'en parler, c'est une valeur éthique. Le respect des droits des autres, c'est une valeur éthique. Le respect des biens de l'État, c'est une valeur éthique. Donc, tout cela, c'est important. Personne ne peut prendre la place de l'État, il va détourner comme si c'était ses biens, alors que ce sont les biens de l'État. Donc il faut que ces gens puissent être amenés à l'école de l'éthique, de responsabilité éthique, et pour qu'ils comprennent ce que c'est, gérer un peuple, gérer une nation.
Bien, nous parlons aujourd'hui dans CapiService du rôle et compétences de membres du gouvernement. Voilà, on nous a dit tout à l'heure que si on parle de ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre délégué, c'est tout simplement pour raison de préséance et de protocole. Professeur, pouvez-vous expliquer davantage ce que cela veut dire? Bon, quand on parle de présidence au protocole, à quoi on fait allusion?
Non, ce sont des postes protocolaires, c'est-à-dire honorifiques, où on dit, voilà, vous êtes Premier ministre, c'est selon le poids politique que nous avons. Parce qu'ils se disent, bon, voilà, moi j'ai 17 députés, j'ai ceci, on lui donne ce titre-là. On lui dit, comme vous avez assez de députés, et donc vous êtes vice-premier ministre, on lui colle un ministère. Alors, maintenant, celui qui n'a pas assez, on lui donne. Donc la présidence se forme maintenant à ce niveau-là. Mmh. Quand on n'a plus de ministres, plus de députés, on n'a plus de pouvoir, et là, on se partage. Donc, comme quelqu'un a dit ici, un de nos auditeurs a dit que on prend le peuple en otage, justement. Parce que nous ne préférons pas avoir un tel ministre à tel endroit du moment que nous savons ses compétences qui sont relativement limitées. Donc, on le met là-bas parce qu'il faut répondre aux appétits politiques. Et là, c'est vraiment dangereux et c'est ça. Les conséquences, c'est quoi? Le pays n'est pas géré correctement.
Bien, je vais dire rapidement la réaction de Kaité Kalunga Prosper depuis Lubumbashi. Chaque ministre a ses attributions et aucun ministre n'a le droit d'entrer dans le camp d'un autre. La communication au sein du gouvernement est très importante parce que les ministres sont censés collaborer afin d'accomplir leur mission. Nous demandons surtout au ministre de travailler avec sincérité, pudeur et modestie parce que nous demandons surtout au ministre de travailler avec sincérité, pudeur et modestie parce que le travail qui leur est confié est si grand et de mettre les membres de cabinet, voilà, compétents, talentueux et intelligents et non placer les membres de leur famille qui n'ont aucune méritocratie et des bonnes mœurs. Votre réaction, professeur?
Non, il n'a pas dit mieux. Il aurait pu encore ajouter plus que ça. Vous voyez,
oui.
Il y a là un problème de culture politique. Dans le chef de nos responsables politiques, ils n'ont pas cette culture politique. Ils viennent en politique pour s'enrichir. Or, ce n'est pas en politique où il faut s'enrichir. S'il faut s'enrichir, il faut faire les affaires. Il faut entrer dans un autre monde, le monde des affaires. Ici, en politique, c'est un apostolat. C'est une manière de rendre à l'État, au peuple, ce que il vous a donné comme étant, il vous a formé avec son âge, tout ça, c'est un apostolat, c'est vraiment un bénévolat. Mais ici, ce sont des ministres qui deviennent des riches, des richissimes même, qui ont des appartements un peu partout, qui s'achètent de grosses voitures, qui de villas un peu partout. Vous voyez, c'est un problème réel. De l'autre côté, il y a cette collaboration. Nous avons parlé de valeurs éthiques, la collaboration fait partie des valeurs éthiques. Et il faut qu'il y ait cette collaboration entre les ministres eux-mêmes, qu'ils se comprennent, qu'ils travaillent pour le bien de la population. Dans des cabinets, nous l'avons dit, il y a ce que nous appelons le népotisme ou bien le tribalisme qui joue. Un ministre va prendre sa femme, va prendre ses enfants, il met dans le cabinet. Comment ce cabinet pouvait-il donner, par exemple, du bon résultat pour la population? Impossible. Donc tout cela, c'est un problème éthique, comme je le dis. Il faut amener tout cela, puisque la transformation, pour moi, c'est pas la transformation matérielle. Il faut la transformation qualitative de notre pays doit absolument se faire par la gestion des valeurs, par l'intégration des valeurs dans les officiums politiques. Voilà.
Bien, Marcel Mac depuis Kananga nous dit que c'est un mais très important. Par exemple, sous le régime de Joseph Kabila, il y a eu des problèmes entre le ministre de l'EPST et celui de l'enseignement professionnel. Celui de l'enseignement professionnel voulait aussi, contre vents et marées, organiser l'examen de l'État, alors que cela est de la compétence du ministère de l'EPST. Alors, il y a eu des conflits comme ça, qu'on a vécu cela. Il y a eu même à un certain moment des bagarres entre les inspecteurs des deux ministères.
Et voilà. Mais il faut aller plus. Même au ministère de la Justice. Il y avait un ministre de la Justice et un vice-ministre de la Justice. Ces gens se sont battus dans leur cabinet.
Pourquoi?
Mais c'est parce que il y avait conflit de compétences et conflit d'intérêts. Puis c'est lui qui va organiser les élections, les examens d'État. Il sait qu'il aura un peu d'argent pour ses besoins. De l'autre côté, il dit non, c'est moi qui. Donc c'est pas clair. C'est pourquoi je parle d'un superflu dans toute la gestion de nos ministères ici. Il faudra que la première ministre, puisse clarifier des choses, que tel fait ceci et tel autre fait cela. Donc, pour ne pas avoir ces conflits d'intérêts, ces conflits parfois qui est ridicule, qui met la population dans une difficulté réelle.
Voilà, il faut éviter ce genre de situation.
Absolument.
Donc, d'après vous, les ministres délégués, ministres d'État, vice-premier ministre, etc., c'est tout simplement une question de préséance par rapport aux autres. Mais dans les attributions, cela doit être déterminé clairement par la première ministre.
Oui, d'abord, c'est pas seulement une question de préséance. C'est aussi une réponse, une satisfaction qu'on donne au cartel politique. Donc, il y a deux raisons. Ce sont les deux raisons-là. Mais s'il faut parler positivement, aller pour le bien de la population, puisque maintenant, il est difficile qu'on demande à la Première ministre de revoir tout de suite après une semaine
ce gouvernement. Non, mais là, c'est plus possible.
C'est plus possible pour le moment, mais c'est possible peut-être dans 2 ans. Donc, il y a moyen qu'elle puisse préciser les choses, que chaque ministre sache ce qu'il doit faire. Parce qu'il y a des ministres qui ne savent pas quoi faire. J'ai entendu notre jeune ministre de la Justice qui disait qu'il a demandé à M. Alinguete de lui présenter le canevas de tous ceux qui ont détourné l'argent du gouvernement dans la législature passée. Donc
il tient à créer un tribunal
pour
réprimer les crimes financiers.
Oui, j'ai le soutien et je suis parti prenant de ce qu'il doit faire et je lui propose le Conseil national d'éthique pour qu'il puisse le soutenir et nous allons l'aider pour que on puisse traquer tous ces malfrats qui ont détourné nos biens, qui doivent remettre cet argent, et nous connaissons là où ils ont implanté leurs biens, les maisons, les villas, nous savons. Donc, il y a des comptes. On doit geler tous ces comptes et retirer cet argent, parce que c'est l'argent du contribuable congolais.
Jérémy Mwamba de Lubumbashi nous a écrit, il dit pour lui, l'État congolais, c'est lui-même qui balise ses conflits dans la mesure où il crée les sous-groupes dans un même groupe. Voilà. Si ça ne dépendait que de moi, je pourrais suggérer qu'on puisse avoir une seule mouture. Chef du gouvernement, ministre, vice-ministre et secrétaire général.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Mais justement, c'est ce que je venais de démontrer ici. Je venais de le démontrer en disant que on peut se limiter juste au ministre avec des vice-ministres et les secrétaires généraux que nous avons. Et ce sont les secrétaires généraux qui travaillent. Les ministres ne font rien carrément. Ils sont là pour signer des ordonnances et chercher de l'argent.
Non, mais ils travaillent,
Ils travaillent quoi? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est quand on voit l'impact sur la société. Alors, il n'y a pas d'impact. Vous mettez un ministre des Affaires sociales. Mais regardez sur, quand vous passez avec votre voiture, sur Triomphal, regardez. Regardez comment
Qu'est-ce qui se passe sur Triomphal?
Sur Triomphal, regardez toutes ces personnes qui n'ont pas qui n'ont pas de moyens, qui viennent des aveugles, des non-voyants, qui viennent vers vous et demandant l'argent, tout ça. Et ça, c'est ridicule pour la personne humaine. Alors qu'il y a même un ministre délégué de personnes vivant avec handicap, tout cela, c'est du superflu. Pourquoi ne pas interpeller cette ministre? Dernièrement, j'étais dans un cabinet de NDH, c'est la Commission nationale des droits humains. J'étais là et j'ai vu ces personnes handicapées qui sont venues là-bas pour réclamer le départ de la ministre à peine installée.
Mais pourquoi? Elle n'a pas encore travaillé.
La dernière semaine, il y avait même un embouteillage terrible créé vers Changoula par ces mêmes personnes vivant avec handicap.
Est-ce qu'il n'y avait pas manipulation aussi?
Non, mais pourquoi on pense-t-on qu'il y a manipulation alors qu'il y a des réclamations réelles, sociales, qui sont posées par ces personnes qui vivent dans la misère?
Mais vous-même, vous l'avez dit qu'il y a certains ministres qui ont un programme d'action, mais il n'y a pas de moyens pour exécuter cela. Comment va-t-il travailler?
Comment il n'y a pas de moyens? Pourquoi il n'y a pas de moyens?
Mais parce que vous l'avez dit, il y a eu des situations comme ça.
Oui, il y a eu des situations.
Le dossier est bloqué, tout ça.
Oui, c'est bloqué, mais des cas flagrants comme cela. Vous n'allez pas dire que ce ministère, quand on crée une administration, on lui donne de fonds, mais malheureusement, ça n'évolue pas.
Bien, merci beaucoup, professeur Sylvain Tchikoji. Je rappelle que vous êtes expert en décentralisation, analyste politique, vous êtes scientifique. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne journée et à la prochaine.
Oui, je vous en prie. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de production. Pierre Diassinois, à la mise en onde, Tati Mapoukou a assuré la coordination à la réalisation. Feza Bongonda, Julie, au micro, Jody Daniel Kachama. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.